Bonjour, André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur. Bienvenue dans Théâtralité. Pour répondre aux défis lancés par sa sœur, Agatha Christie rédige son premier manuscrit de roman policier, The Lonely Petit, dont l'intrigue se déroule au Caire. Refusé par tous les éditeurs auxquels elle l'envoie, ce roman ne convainc pas. Hugues Massy, agent littéraire, lui conseille d'en écrire un second. Et en 1912, elle rencontre le lieutenant Archibald Christie. Alors que la Première Guerre mondiale se profile à l'horizon, le couple se marie le jour de Noël 1914. Agatha Christie s'engage en tant qu'infirmière bénévole à Torquay durant la Grande Guerre et devient assistante chimiste en 1916. Elle y croise de nombreux réfugiés belges fuyant la guerre. Ces événements inspirent quelque temps plus tard la création du célèbre personnage d'Hercule Poirot, détective belge à la retraite. L'année suivante, elle obtient le diplôme de pharmacienne et c'est ainsi qu'elle en apprend beaucoup sur les drogues et les poisons, des thèmes très présents dans ses romans. La même année, pendant son temps libre, elle rédige son premier roman policier, La mystérieuse affaire de Stiles. Protagoniste de ce livre, le personnage d'Hercule Poirot est né. Bonjour Françoise Bénard.
Bonjour André, bonjour à tous.
Bonjour Philippe Merlan.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour suivre les traces d'Hercule Poirot, personnage emblématique des romans policiers d'Agatha Christie, apparu dans 33 romans, 3 pièces de théâtre et une cinquantaine de nouvelles de l'autrice. Il est né à Bruxelles, à une date indéterminée. Certains évoquent la date du 22 janvier 1877, mais cela est vivement remis en doute. Hercule Poirot est retraité de la police belge, où il a occupé les fonctions de chef de la sûreté à Bruxelles. Il serait originaire de la région de Spa, en Belgique, et de religion catholique romaine. Durant la Grande Guerre, il est blessé à une jambe et évacué comme réfugié dans la petite ville anglaise de Stiles, St. Mary. C'est à cette occasion qu'il résout sa première enquête connue du grand public, la mystérieuse affaire de Stiles. Il devient ensuite détective privé et vit de cette activité en Angleterre. Il s'installe à Londres, réalise la plupart de ses enquêtes en Grande-Bretagne. Il résout également des affaires outre-Manche, la plus connue étant sans doute celle du crime de l'Orient Express. Sa réputation grandissante lui permet de travailler pour de riches clients comme dans « Mort sur le Nil », où il vient en aide à l'américaine fortunée Lynette Ridgeway. Hercule Poirot s'installe dans un appartement luxueux, travaille occasionnellement pour le gouvernement britannique et voyage accompagné d'un marchand d'hommes. Dans ces années 1930, il est très sollicité et voyage en Mésopotamie, en Égypte, au Moyen-Orient. La décennie suivante, son travail d'enquêteur est concurrencé par Miss Jane Marple, nouveau personnage d'Agatha Christie dont nous avons parlé lors d'une émission précédente. Voici un premier extrait tiré du roman Black Coffee qui trace un portrait de notre héros et parle aussi de son ami Hastings, lu par Philippe Merlan.
Hercule Poirot prenait son petit déjeuner dans son luxueux appartement de Mayfair, havre de paix tout entier voué au double culte de l'angle droit et de la symétrie. Et il venait de se régaler de sa brioche et de sa tasse de chocolat chaud quand, rompant incongrument avec la sacro-sainte tradition, car c'était un être d'habitude et qui dérogeait rarement à la routine, il pria de but en blanc son fidèle valet de chambre, Georges, de lui en préparer une seconde tasse. Puis, tandis qu'il se mettait en devoir d'attendre cet extravagant supplément de breuvage, il accorda un regard complaisant à l'image que lui renvoyait le miroir en pied, rectangulaire comme il se doit, qui lui faisait face de l'autre côté de la pièce. Court sur pattes, la soixantaine bien sonnée, silhouette menue en dépit de la plaisante rondeur de sa bedaine, il avait le crâne en forme d'œuf et des moustaches superlatives qui se relevaient dans un élan de pétulance contrôlée. Apparemment satisfait de ce qu'il voyait, il reporta son attention sur le courrier du matin qu'il avait déjà parcouru et qui attendait sur la table. toujours aussi féru d'ordre et de méthode, il avait fait des enveloppes une fois vidées de leur contenu, une pile impeccable. Ils avaient méticuleusement ouvertes à l'aide du coupe-papier en forme d'épée miniature que son vieil ami, le capitaine Hastings, lui avait offert pour son anniversaire des années auparavant. Une deuxième pile concernait les envois qu'il jugeait sans intérêt, les prospectus pour la plupart, et qu'il chargerait tout à l'heure Georges de jeter à la corbeille. La troisième était constituée de lettres qui exigeaient réponse ou, à tout le moins, accusées de réception. Il s'occuperait d'elle après le petit déjeuner, en tout cas pas avant 10 heures. Poirot estimait en effet qu'entamer une journée de travail casanier avant 10 heures du matin trahissait un cruel manque de professionnalisme chez l'imprudent qui s'y risquait. Lorsqu'il était sur une affaire, alors là bien entendu, il en allait tout autrement. Il se rappelait même qu'un jour Hastings et lui s'étaient mis en route bien avant l'aube, histoire de... Mais non. Poirot ne voulait pas que ses pensées s'en aillent vagabonder sur les rives du passé. De ce passé si proche encore, mais auquel il ne pouvait s'empêcher de songer autrement que comme au bon vieux temps. Sitôt résolu, ce que deviendrait leur dernière affaire menée en commun, la lutte contre l'Organisation internationale du crime connue sous le nom des Quatre. Hastings avait cinglé vers l'Argentine pour y retrouver sa femme et son ranch. Et bien que le cher homme séjournât actuellement à l'ordre en voyage d'affaires, leur collaboration appartenait indubitablement au passé. Que d'émotions partagées à l'époque, rêva Poirot. Alors que désormais, que faisons-nous ensemble, Hastings et moi? Il nous arrive de dîner parfois dans ce prodigieux palace qu'est le Ritz, où il a établi ses pénates. Tout cela est bien bon, je n'en disconviens pas, de même que les 2 ou 3 pièces de théâtre que nous sommes allés applaudir ensemble. Mais... que la vie était belle au temps où... Non. Il fallait vraiment qu'il s'efforce de ne pas ressasser le passé, même si c'était difficile, même si la brève escale londonienne de Hastings ne faisait que raviver la blessure. Était-ce pour tout cela que Poirot sentait l'agitation qu'il gagnait en cette belle matinée de mai 1934, où le printemps commençait enfin à pointer le bout de son nez? Officiellement retiré des affaires, il s'était plus d'une fois laissé entraîner hors de cette retraite. Chaque fois, en fait, qu'un problème particulièrement intéressant lui avait été apporté comme sur un plateau. Il avait alors savouré le bonheur de se retrouver en piste. Hastings à ses côtés, qui servait en quelque sorte de caisse de résonance à ses idées et à ses théories. Mais de toute façon, rien qui présentât un intérêt professionnel suffisant n'avait été soumis à Poirot depuis plusieurs mois. N'existait-il pas, donc, plus de crimes hors du commun, ni de criminels dont l'ingéniosité défiait l'imagination? Tout n'était-il plus que violence et brutalité primaire en ce bas monde, que meurtre ou vol sordide sur lesquels il lui était indigne de se pencher?
Arthur Hastings apparaît dans de nombreux romans et nouvelles d'Agatha Christie. La relation qu'il entretient avec Hercule Poirot est touchante et particulière. Si Poirot s'amuse souvent à titiller Hastings sur son talent inégalable dans les enquêtes à trébucher sur la vérité sans le savoir, de son côté, le capitaine fait preuve d'une belle loyauté envers Poirot. Une relation parfois chien-chat qui donne au personnage ce côté terriblement humain. Voici un court extrait de Black Coffee, d'échange entre ces deux personnages, lu par Françoise.
Vous êtes intrigué, Hastings ? Demanda Poirot. Vous vous étonnez que je ne me lance pas à la poursuite d'un suspect ? Il y a de cela, reconnut le capitaine. Je ne doute pas que vous le feriez si vous étiez à ma place, convint Poirot au comble de la suffisance. Je le comprends. Mais je ne suis pas de ceux qui aiment à courir en tous sens, à chercher une aiguille dans une botte de foin, comme vous le dites, vous autres Anglais. Pour le moment, je me contente d'attendre. Et pourquoi attends-je ? Eh bien, parce que certaines choses sont parfois limpides pour l'intelligence d'Hercule Poirot, alors qu'elles ne le sont pas le moins du monde pour ceux qui ne jouissent pas des mêmes immenses facultés. Sacré nom d'une pipe, Poirot, manqua de s'étrangler Hastings. Je vous assure que je serai souvent prêt à donner une somme considérable pour vous voir, ne serait-ce qu'une fois, vous casser le nez et devenir la risée universelle. Vous êtes si irrémédiablement infatué de vous-même. « Ne vous mettez pas en colère, Hastings, mon très cher, » répondit Poirot sur un ton apaisant. « En vérité, Je m'aperçois qu'il y a des moments où vous semblez presque me détester. Hélas, c'est la rançon de la grandeur. » Le petit homme gonfla la poitrine et poussa un soupir si comique, Hastings ne put s'empêcher de rire. « Poirot, je n'ai jamais vu personne posséder si haute opinion de soi. »« Que voulez-vous ?» fit Poirot avec suffisance. « Quand on est unique, on finit toujours par le savoir. »
D'autres personnages se retrouvent aux côtés d'Hercule Poirot. Outre le capitaine Hastings, son meilleur ami, Adrian Oliver, auteur de romans, auto-caricature d'Agatha Christie, qui, comme elle, n'affectionne pas particulièrement l'écrivaine qu'elle est. Elle déteste l'alcool et les apparitions publiques. Il y a aussi Miss Lebon, sa secrétaire, qui a peu de faiblesse humaine. Poirot la décrit comme étant incroyablement charmante et incroyablement efficace. Tout ce qu'elle a mentionné comme étant à considérer mérite d'être examiné. Elle est experte sur presque tout et projette de créer le système de classement parfait. Georges, son valet de chambre, très stylé et très efficace, déduisant d'un seul coup d'œil la qualité des visiteurs de Poirot, devançant les besoins de son maître avant même que celui-ci ne le sollicite. Georges est tout le contraire du capitaine Hastings. Et l'inspecteur Japp, de Scotland Yard, il est par nature un homme ouvert, parlant fort et parfois inconsidéré. Sa relation avec le détective belge est l'un des plus étranges aspects du monde de Poirot. Il a d'abord rencontré Poirot en Belgique en 1904, et plus tard, ils unissent à nouveau leurs forces pour traquer un criminel connu sous le nom de Baron Altara. Ils se rencontrent aussi en Angleterre, où Poirot aide souvent Japp à résoudre une affaire et lui permet de s'attribuer tous les mérites de la résolution en échange de faveurs. Un autre aspect de la personnalité d'Hercule Poirot dans cet extrait du livre « Le crime de l'Orient Express » lu par Françoise, où il refuse une affaire. Revenant d'Alep, en Syrie, où il avait éclairci une affaire pénible, il avait traversé toute la Turquie avant de faire halte de courte durée à Constantinople. Là, il prit une correspondance, un train anormalement bondé en cette période de l'année. Des gens de diverses nationalités y étaient montés. Les événements de l'extrait qui suit commencent le lendemain d'une première nuit à bord du train.
Levé de bon matin, M. Hercule Poirot avait déjeuné à peu près seul au wagon-restaurant et passé la matinée à compulser ses notes sur l'affaire qui le rappelait d'urgence à Londres. Il avait à peine vu son compagnon de voyage. Comme il arrivait légèrement en retard pour le lunch au wagon-restaurant, M. Bouc, qui l'attendait déjà attablé, l'accueillit avec force gestes et le pria de s'asseoir à la place inoccupée en face de lui. Poirot s'installa et constata avec plaisir que leur table était servie la première et que la chair était excellente. Lorsqu'on en fut au délicieux fromage à la crème, M. Bouc détourna ses pensées des choses de la table. Il arrivait à ce moment du repas où l'on devient philosophe. « Ah ! Soupira-t-il, que n'ai-je la plume de Balzac pour décrire cette scène ?»« Ça, c'est une idée, » dit Poirot encourageant. « Vous trouvez ? Je crois que personne n'y a encore songé. Et pourtant, il y a là matière à roman, mon cher. Voici réunis des gens de toutes classes, de toutes nationalités, de tous âges. Pendant 3 jours, ces personnes étrangères, les unes aux autres, vont dormir et manger sous le même toit. Elles mèneront une vie commune et, au bout de ces 3 jours, elles se sépareront pour ne se revoir peut-être jamais. À moins qu'une catastrophe... Ah non, mon ami! Évidemment, de votre point de vue, ce serait regrettable. Mais supposons un instant qu'un accident se produise. En ce cas, tout ce monde se trouvera uni dans la mort. Encore un doigt de vin, dit Monsieur Bouc. Vous êtes sinistre, mon cher. C'est sans doute l'effet de la digestion. J'avoue qu'en Syrie, la nourriture ne convenait guère à mon estomac. Marie de Benham recula sa chaise et s'en alla en adressant un léger salut aux 2 autres dames. Le colonel Arbuthnot se leva et la suivit. Ramassant la monnaie dédaignée, l'Américaine sortit et, après elle, la dame au masque au vin. Le couple hongrois avait déjà quitté le wagon-restaurant et il n'y restait plus que Poirot, Ratchet et McQueen. Ratchet glissa un mot à son compagnon qui se leva et sortit. Ensuite, lui-même se leva, mais au lieu de suivre McQueen, il vint s'asseoir à la table de Poirot. « Voulez-vous avoir l'obligeance de me donner du feu ?» lui demanda-t-il d'une voix douce, un peu nasillarde. « Je me nomme Ratchet. » Poirot s'inclina, plongea sa main dans sa poche et tendit à l'autre une boîte d'allumettes. « Ai-je bien le plaisir de parler à Monsieur Hercule Poirot ?» De nouveau, Poirot s'inclina. « On ne vous a pas trompé, monsieur. Je suis Hercule Poirot. » Avant de poursuivre, Ratchet observa longuement le détective. « Chez nous, dit-il enfin, on va droit au but. Monsieur Poirot, je voudrais que vous travailliez pour mon compte. » Hercule Poirot leva légèrement les sourcils. Monsieur, pour le moment, ma clientèle est limitée. Je ne m'occupe que d'un très petit nombre d'affaires criminelles. Je le comprends, monsieur Poirot, mais vous n'y perdrez pas, je vous le promets, dit l'autre d'une voix persuasive. Hercule Poirot, après une minute ou deux de réflexion, lui demanda « Eh bien, que désirez-vous de moi, monsieur Ratchet ?»« Voici, monsieur Poirot, je suis riche, fabuleusement riche, et tous les gens dans ma situation sont assiégés d'ennemis. J'en ai un. »« Un seul ? Pourquoi cette question ? Monsieur, quand on se trouve dans une situation qui, selon vos dires, vous crée des ennemis, généralement ceux-ci ne se réduisent pas à un seul. » Cette réponse parut soulager Ratchet. Il se hâta de poursuivre. Évidemment, je saisis votre point de vue, mais un ennemi ou plusieurs, c'est pareil. Ce qui compte avant tout, c'est ma sécurité.
Votre sécurité ?
Oui. Ma vie a été menacée, monsieur Poirot. Je suis capable de me défendre. De la poche de son veston, sa main sortit une seconde, un petit revolver. On ne m'aura pas facilement. Néanmoins, on ne s'entoure jamais de trop de précautions et... Vous êtes l'homme qu'il me faut, monsieur Poirot. Comme je vous l'ai déjà laissé entendre, je vous rétribuerai généreusement. Quelques secondes durant, Poirot garda un mutisme et une impassibilité absolue. Son interlocuteur n'aurait pu deviner ce qui se passait dans son esprit. « Je regrette infiniment, monsieur, de ne pouvoir vous obliger. » L'autre le dévisagea un instant. « Fixez-moi votre prix. » Poirot secoua la tête. « Vous semblez ne pas comprendre, monsieur. J'ai admirablement réussi dans ma carrière et je possède de quoi satisfaire mes besoins et mes caprices. Je me charge seulement de mes affaires, que j'estime intéressantes. » Vous vous montrez difficile. 20 000 $, vous tenterez ? Pas le moins du monde. Si vous espérez davantage de moi, par vos réticences, vous perdez votre temps. Je connais la valeur des choses. Moi aussi, monsieur Ratchet. Bien alors, mais qu'est-ce qui vous déplaît dans ma proposition ? Poirot se leva. Puisque vous insistez, permettez-moi vous dire que votre tête ne me revient pas. « Monsieur Ratchet. » Sur ce, il quitta le wagon-restaurant.
Au mur de petite stature, avec une tête en forme d'œuf, une apparence de dandy, des cheveux teints, des yeux verts de chat, des moustaches en croc soigneusement cirées, nous l'avons dit, il est toujours tiré à quatre épingles, impeccablement vêtu. Hercule Poirot est un homme orgueilleux et fier de sa personne et de ses capacités intellectuelles exceptionnelles. Il aime être complimenté et reconnu à sa juste valeur. Il est soucieux de ne pas trahir sa morale et attentif à préserver toujours son confort. Ses moustaches, considérées comme ridicules par tout le monde, font sa fierté, à l'égal de l'inestimable valeur qu'il accorde à son intelligence. Il n'hésitera pas à sacrifier temporairement son appendice pileux pour une bonne cause dans un des premiers romans, « Les Quatre ». Afin de tromper ses ennemis en abordant une moustache postiche opportunément découverte. Toujours très courtois, voire obséquieux, il se considère comme presque infaillible et ne manque pas ainsi d'affronter ses adversaires les plus terribles, lesquels le gens quelque peu ridicules ont tendance à le sous-estimer et se trahissent ainsi dans leur comportement ou leurs propos. Voici, lu par Philippe, un extrait du meurtre de Roger Ackroyd. Voici, lu par Philippe, un extrait du chapitre 7 dont nous nous avons parlé dans une précédente émission et dont vous vous souvenez que le narrateur est le docteur Shepard, où cette fois, Hercule Poirot accepte une affaire.
Une vieille femme au chef orné d'une gigantesque coiffe bretonne nous ouvrit la porte des mélèzes. Apparemment, M. Poirot était chez lui. Nous fûmes introduits dans un petit salon où régnait un ordre méticuleux, et nous ne tardâmes pas à voir entrer mon ami de la veille. Il nous aborda en souriant. « Monsieur le docteur, mademoiselle, » il s'inclina devant Flora, et j'entrai dans le vif du sujet. « Sans doute avez-vous entendu parler de l'événement tragique survenu hier soir ?» Le visage de mon interlocuteur devint grave. « Mais certainement. Et mademoiselle a toute ma sympathie. En quoi puis-je vous être utile ?»« Mademoiselle Ackroyd souhaite que vous découvriez l'assassin, » acheva Flora sans hésiter. « Je vois, » dit le petit homme. « Mais la police va s'en charger, non ?»« La police peut se tromper, » répartit Flora. « Et à mon avis, c'est ce qu'elle est en train de faire. » « S'il vous plaît, monsieur Poirot, voulez-vous nous aider ?»« Si c'est une question d'argent, » Poirot l'arrêta d'un geste. « Pardonnez-moi, mademoiselle, non, que je méprise l'argent. » Une lueur furtive scintilla dans ses yeux. « Au contraire, il a toujours compté beaucoup pour moi. Donc si je me charge de cette affaire, comprenez-le bien, je la suivrai jusqu'au bout. » Un bon chien n'abandonne jamais la piste. Et vous pourrez bien regretter de n'avoir pas laissé la police agir seule. Je veux la vérité, dit Flora en affrontant son regard. Toute la vérité ? Toute la vérité. Alors j'accepte, répondit le petit homme. J'accepte en espérant que vous ne regretterez pas ces paroles. Et maintenant, racontez-moi tout. Je préfère laisser ce soin au docteur Shepard. Il est mieux renseigné que moi. Ainsi encouragé, je me lançai dans un exposé détaillé de tous les faits relatés plus haut. Poirot m'écouta attentivement, glissant une question ici ou là, mais la plupart du temps silencieux, le regard au plafond. J'achevais mon récit sur mon départ de Fembley, en compagnie de l'inspecteur la veille au soir. Et maintenant, conclut Flora, dites-lui tout au sujet de Ralph. J'hésitais, mais un regard impérieux m'enjoignit de parler. « Vous êtes donc allé à cette auberge, les trois Marcassins, hier soir en rentrant chez vous ?» demanda Poirot quand j'eus terminé. « Et pour quelle raison, au juste ?» Je pris le temps de choisir mes mots avec soin. J'ai pensé que quelqu'un devait informer ce jeune homme de la mort de son oncle. Après avoir quitté Fembley, l'idée m'est venue que, à part M. Ackroyd et moi, tout le monde ignorait sa présence au village. Poirot hocha la tête. « Parfaitement. » Et vous n'aviez pas d'autre raison de vous y rendre, j'imagine ? Aucune, répondis-je avec raideur. Ne cherchez-vous pas, disons, à vous rassurer au sujet de ce jeune homme ? Me rassurer ? Je crois, monsieur le docteur, que vous saisissez très bien ma pensée, même si vous prétendez le contraire. À mon humble avis, c'était un soulagement pour vous d'apprendre que le capitaine Patton avait passé la soirée à l'auberge. Pas du tout. Le petit détective secoua gravement la tête. « Vous ne m'accordez pas la même confiance que mademoiselle Flora, mais peu importe. Ce qui nous intéresse, c'est la disparition du capitaine Patton, dans des circonstances qui restent à éclairer. C'est un sérieux problème, je ne vous le cacherai pas, bien que je n'exclue pas la possibilité d'une explication toute simple. C'est bien ce que je disais, s'exclama Flora avec chaleur. Loin d'insister sur la question, Poirot me suggéra de nous présenter sans attendre au poste de police. Il jugea préférable que Flora rentre chez elle et que je sois le seul à l'accompagner pour le présenter à l'officier chargé de l'affaire. Nous nous rangeâmes à son avis.
Hercule Poirot a une obsession de l'ordre et dédaigne les méthodes d'enquête traditionnelles qui consistent le plus souvent à se mettre à genoux pour chercher des indices. Il préfère une approche psychologique du crime, allant jusqu'à parler avec l'inspecteur Japp, qu'il est capable de résoudre une affaire à l'aide de ses petites cellules grises en restant confortablement assis dans un fauteuil. Notre héros met en valeur les petits détails qui peuvent paraître insignifiants aux yeux de tous, mais qui constituent, au contraire, des éléments indispensables à la découverte de la vérité. S'ils sont rangés dans l'ordre, à la manière d'un puzzle, et ajoutés à des témoignages astucieusement déclenchés par l'intelligence du détective. La divulgation de la vérité et du nom du coupable est souvent le prétexte pour Hercule Poirot à une mise en scène qu'il organise lui-même. Il rassemble tous les protagonistes de l'histoire, leur détaille toutes les étapes de son enquête, dévoile les différentes hypothèses en désignant pour chaque cas un meurtrier possible, puis finit par donner la solution finale, la seule viable. Voici, lu par Philippe, le meurtre de Roger Ackroyd au chapitre 23. Le narrateur est toujours le docteur Shepard.
Et maintenant, annonça Caroline en se levant, cet enfant va monter se reposer. Ne vous inquiétez pas, ma chère, Monsieur Poirot fera tout ce qu'il pourra pour vous. Soyez-en sûr. Je devrais rentrer à Femmely, protesta faiblement Ursula. Caroline lui imposa le silence. Ne dites donc pas de bêtises, pour l'instant vous êtes sous ma garde et vous restez ici, n'est-ce pas, Monsieur Poirot ? C'est la meilleure chose à faire, appuya le petit belge. Ce soir, je tiens à ce que madame, assiste à ma petite réunion. Je l'attends chez moi à 21h précises. Sa présence est très nécessaire. Caroline hocha la tête, amena Ursula et la porte se referma derrière elle. Poirot se laissa tomber dans un fauteuil et constata « Jusqu'ici, tout va bien. Les choses ont l'air de vouloir s'arranger. » « Mais on a de plus en plus mal pour Ralph Patton, observai-je d'un ton lugubre. »« Oui, c'est vrai, mais il fallait s'y attendre, non ?» Un peu intrigué par cette remarque, je regardais le détective. Il s'était renversé dans son fauteuil, les yeux mi-clos, les mains jointes par le bout des doigts. Soudain, il secoua la tête et soupira. « Qu'y a-t-il » demandai-je. « Il est qu'à certains moments, je regrette terriblement mon ami Hastings. Vous savez, celui dont je vous ai parlé et qui vit maintenant en Argentine. » Dans les affaires difficiles, il était toujours à mes côtés. Et il m'a bien souvent aidé, oui, bien souvent. Il avait le chic pour découvrir la vérité, comme par hasard, et sans même s'en rendre compte, bien entendu. Il laissait échapper une remarque saugrenue, et c'était justement cette remarque qui me mettait sur la voie. J'appréciais aussi beaucoup l'habitude qu'il avait prise de rédiger un compte-rendu des enquêtes intéressantes. Je toussotais un peu gêné.
En 1975, après 33 romans et environ 55 nouvelles, Agatha Christie décide de mettre un terme aux aventures de ce cher Hercule Poirot. Dans Hercule Poirot quitte la scène, il apparaît vieilli, malade et cloué dans une chaise roulante par une arthrite dévorante. Poirot disparaît à la fin de Hercule Poirot quitte la scène après avoir tué le coupable d'une balle de revolver entre les deux yeux. Il se laisse mourir en omettant de prendre ses cachets, le maintenant en vie. Il décède un an avant l'autrice et a droit à sa nécrologie dans les colonnes du New York Times. Le 6 août 1975, Thomas Lask notait « Hercule Poirot, détective belge, ayant acquis une renommée internationale, est mort en Angleterre. Son âge était inconnu, c'est à ce jour le seul personnage de fiction à avoir eu sa nécrologie icône marquante de la littérature. C'est dire à quel point Hercule Poirot avait réussi à s'insérer dans le réel de ses lecteurs. Voici, lu par Françoise, le dernier extrait de « Hercule Poirot quitte la scène ». Hastings va retrouver son ami vieillissant et dans cet extrait, il échange avec le docteur Franklin et puis avec son ami Poirot.
Car après tout, qu'est-ce que la culpabilité et qu'est-ce que l'innocence ? Je n'aurais pas cru, dis-je, qu'il pût y avoir le moindre doute à ce sujet. Le docteur se tourna vers moi. Qu'est-ce que le mal, qu'est-ce que le bien ? Les opinions varient d'un siècle à l'autre et parfois d'un pays à l'autre. Ce que vous pourriez déterminer, ce serait probablement la nature du sentiment de culpabilité ou d'innocence. Mais en fait, un tel test n'aurait pas la moindre valeur. J'avoue ne pas très bien vous suivre. Mon cher ami, imaginez un homme qui se croit le droit divin de tuer,
Disons un usurier ou un proxénète ou tout autre personnage susceptible de soulever l'indignation. Il commet ce que vous appelez, vous, une action coupable, mais ce qu'il considère, lui, comme un acte parfaitement innocent. Il me semble pourtant qu'un meurtre doit forcément s'accompagner chez celui qui le commet d'un sentiment de culpabilité. Je peux vous assurer, répondit le docteur Franklin d'un air enjoué, qu'il y a des tas de gens que j'aimerais tuer, moi. Et ne croyez pas qu'après cela, mes nuits seraient troublées par des remords de conscience. Voyez-vous, je pense que 90% de la race humaine devrait disparaître et nous vivrions ensuite une meilleure intelligence. Il se leva et s'éloigna en sifflotant entre ses dents. Je le considérais d'un air sidéré. Un petit rire de poireau me fit revenir en arrière et sur terre. L'affaire qui nous occupe, Hastings, sera ma dernière, continua-t-il. Et ce sera aussi la plus intéressante, car notre meurtrier est exceptionnel. Il possède une technique extraordinaire que, malgré moi, je ne puis m'empêcher d'admirer. Jusqu'à présent, il a opéré avec une telle habileté qu'il m'a battu, moi, Hercule Poirot. Il a lancé une attaque à laquelle je suis incapable de trouver une parade. Si vous étiez aussi robuste qu'autrefois. J'avais prononcé cette phrase d'un ton apaisant, mais selon toute apparence, ce n'était pas ce qu'il fallait dire. Combien de fois faudra-t-il vous répéter qu'il n'est pas besoin d'efforts physiques pour démasquer un criminel ? Il suffit de réfléchir, de faire travailler ces petites cellules grises. Oui, naturellement. Ça, vous êtes capable de le faire. Fort bien, d'ailleurs. Fort bien. À mon ami, vous me vexez. Je suis capable de le faire à la perfection. J'ai les jambes paralysées, mon cœur me joue des tours, mais mon cerveau fonctionne toujours sans la moindre défaillance. Il est, vous le savez depuis longtemps, de toute première qualité. Voilà qui est magnifique, dis-je justement.
Merci Françoise, merci Philippe. À très bientôt pour de nouvelles lectures. Notre émission est maintenant terminée. Voici la citation du jour. Chaque chemin emprunté implique des bénéfices et des pertes. Elle est, bien sûr, d'Agatha Christie. Vous retrouverez toutes ces informations et bien d'autres sur le site de l'Union régionale FNCTA. fncta-midipi.fr. Et si vous souhaitez me contacter, vous connaissez mon téléphone 05 61 42 12 45. Allez voir le théâtre amateur. C'est du théâtre de qualité. Joué, mise en scène, éclairé et sonorisé par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, une émission du comité départemental FNCTA, l'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous et à mercredi prochain. Au revoir.
Au revoir André. Au revoir à tous les auditeurs.